Rebonjour à tous. Donc pour cette conclusion, nous avons souhaité donc inviter Dominique Joly, qui est directrice adjointe scientifique au CNRS, et Philippe, donc qui vont reprendre des éléments sur les perspectives par rapport au réseau des zones ateliers. Donc je vais leur laisser maintenant la parole.
Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner cette opportunité pour vous dire quelques mots. Tout d'abord, vous dire que j'ai vraiment un très grand plaisir d'avoir pu assister à ces journées, même si j'avoue n'avoir pas pu assister à toutes les séances parce que j'ai dû m'absenter pour quelques réunions à côté. Mais en tous les cas, c'était un vrai challenge que d'avoir tenu ce cinquième colloque des zones ateliers. Et d'emblée, je souhaite remercier chacun d'entre vous et particulièrement l'équipe de la zone Atelier Loire donc pour avoir réussi cette gageure que de tenir cet événement dans les conditions si singulières que l'on connaît cette année et donc qui donne une tonalité tout à fait particulière à cet anniversaire hein, des 20 ans du réseau. Alors, année singulière, effectivement, car les humains, dans toute leur diversité sociale, culturelle, géographique, économique, politique, se trouvent aujourd'hui confrontés à des événements que pourtant beaucoup d'entre vous avaient prédits. Singulière, car elle confronte les socio-écosystèmes, dont on a beaucoup parlé durant ces derniers jours, à des changements profonds de paradigme, tant sur les questions de recherche, de situation écologique et sanitaire, que sur les questions économiques, de pratiques et d'usages, on l'a vu là aussi maintes fois, et aussi tout en questionnant donc la gouvernance de ces socio-écosystèmes. Et particulièrement cet après-midi, on a eu des illustrations tout à fait remarquables sur la façon d'aborder ces questions-là. Singulière aussi, car elle met en perspective de façon brutale finalement la théorie avec la pratique, les modèles avec le réel et finalement la recherche au cœur de l'action, ce qui est là aussi la philosophie des zones ateliers. Donc cette philosophie à l'origine de la création des zones ateliers, dans son inscription dans le temps long, son réseau de recherche interdisciplinaire, co-construite avec l'ensemble des acteurs du territoire, son schéma conceptuel de gouvernance adaptative des socio-écosystèmes, dont on sait qu'il évolue et qu'il évoluera encore au fur et à mesure des recherches et de vos travaux, ici ou là, en fonction de vos propres particularités et spécificités, est maintenant au centre de nombreux débats et doit répondre à la fois aux enjeux des échelles globales pour affronter les crises environnementales actuelles. Et là aussi, un certain nombre d'interventions aujourd'hui ont montré cela, mais aussi des enjeux aux échelles locales pour tenir compte à la fois de la diversité des situations et des impacts dans et sur les territoires. Donc le programme de ces 3 journées de colloque a montré donc la richesse de ces approches au travers de ces 10 sessions, qui étaient quand même là aussi une organisation particulièrement riche et qui ont fait la part belle à l'interdisciplinarité en mettant l'humain au centre des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux associés aux changements globaux. Donc, les travaux présentés sur l'analyse des trajectoires des socio-écosystèmes, et on a vu l'analyse de John Markle montrer aussi qu'il ne s'agit pas simplement d'analyser les trajectoires, mais aussi cette gouvernance des socio-écosystèmes. Donc, par le prisme des interactions homme-nature, de la gestion de l'eau ou du risque environnemental, permettent d'appréhender finalement comme jamais auparavant on avait pu le faire les socio-écosystèmes, donc sous l'angle de la résidence, qui est évidemment un enjeu majeur à l'heure actuelle. Alors, l'ensemble de ces défis sociétaux font écho aux grandes priorités des agences nationales et des organismes de recherche pour construire des actions pluridisciplinaires en lien avec ces changements climatiques, en lien avec la santé humaine et de l'environnement, en lien avec les territoires du futur et qui promeut aussi un certain nombre d'outils comme l'intelligence artificielle. Donc, tout cela sont des priorités pour lesquelles les zones ateliers ont toute leur place pour élaborer des réponses originales, et on a vu, ne serait-ce que par leur implication dans le projet PIA, là, qu'elles ont effectivement des outils et des objectifs très clairs pour mettre en œuvre ces transitions. Donc, des priorités qui font également partie de l'agenda européen de la recherche, qui ambitionne donc dans son programme Horizon Europe de devenir plus agile, on traduira ce mot, voilà, dans la traduction des résultats de la recherche, à la fois dans l'économie, bien sûr, mais aussi qui souhaite améliorer l'adoption et la visibilité des résultats de la recherche dans la société. Donc là encore, à ce niveau, le réseau des zones ateliers, par son modèle de co-construction des problématiques avec les porteurs d'enjeux et les décideurs, apporte une vraie plus-value, à même de contribuer à ces défis en apportant une expérience et une expertise solide et diversifiée. Alors, au-delà des mots et des ambitions, le réseau des zones ateliers doit faire face à un calendrier particulièrement chargé. En effet, donc, vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation a lancé sa mise à jour de la feuille de route nationale des infrastructures, donc dont le cadrage a été annoncé hier, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fallu que je vous quitte un petit moment, donc lors de sa journée de lancement. Donc, il s'agira de la 5e édition de cette feuille de route, donc, qui a démarré en 2008, hein, et pour le réseau des zones ateliers, donc de sa 2e inscription sur cette feuille de route, puisqu'il a été labellisé infrastructure de recherche en 2018. Alors, les objectifs de cette feuille de route, pour répondre les éléments les plus importants qui ont été annoncés hier, donc je cite, sont de développer une véritable analyse stratégique du paysage des infrastructures. Alors, ça veut dire en fait qu'on remet un peu tout à plat, donnant du sens aux éventuels infléchissements, donc dans le sens des entrées ou des sorties d'infrastructures, à mener, et donc avec 3 priorités affichées de la part du ministère. Donc, la première priorité est l'ouverture à l'interdisciplinarité. Donc là, on voit bien la position du réseau dans ce cadre-là. La coopération nationale et internationale. Donc là aussi, il y a des enjeux importants pour lesquels le réseau des zones ateliers est tout à fait bien placé. Et puis, la question non des moindres qui concerne les données, à la fois en termes de production des données, mais aussi en termes de réutilisation. Donc, vous voyez bien que dans ce contexte d'affichage de 3 priorités, le réseau donc, coche toutes les cases et donc bénéficie d'atouts certains pour prendre toute sa place dans ce contexte et une place tout à fait originale. Alors, l'analyse stratégique de ce paysage donc, va être faite par grands domaines, et celui qui nous concerne en l'occurrence est le domaine de l'environnement, et devra mettre en évidence là aussi trois grandes questions. Donc, les premières grandes questions concernent notamment les défis sociétaux pour l'utilisation de ces infrastructures. Donc, on a vu durant ces 3 journées que les actions portées par le réseau sont au cœur de ces questions et de ces défis. Le second grand type d'analyse concerne le positionnement de chaque infrastructure de la feuille de route par rapport aux évolutions de la recherche et aux besoins des communautés, et également dans la recherche d'interface et de complémentarité avec les autres infrastructures du domaine. Donc là, il s'agit clairement de positionner le réseau des zones ateliers dans le paysage actuel en soulignant sa plus-value par rapport aux autres infrastructures. Donc évidemment, on pense au premier chef à Oscar, mais il y a aussi les autres infrastructures, Typicos ou ANAE, mais également les synergies à rechercher et à développer avec les infrastructures numériques de données pour lesquelles, là aussi, il y a une priorité très forte. Et donc, notamment, il s'agit du PNDB, donc du Pôle national de données de biodiversité et de Tata Terra. Et puis, le dernier ensemble de critères d'analyse concerne donc les impacts donc de l'infrastructure et de la recherche portée par les infrastructures sur les défis sociétaux. Donc, cette analyse du paysage sera donc aussi l'occasion de traiter de questions transverses, donc telles que celles de la science ouverte, évidemment très largement liées à la question des données, et questions qui sont cruciales dans l'activité des zones ateliers, cette notion de données intégrant l'ensemble des champs disciplinaires et donc là aussi permettant la construction de cette interdisciplinarité. Alors très rapidement, le calendrier, comme je vous le disais, il est assez serré. Donc jusqu'en décembre, un certain nombre donc, de groupes thématiques vont se réunir et vont travailler avec les alliances. Donc, pour nous, en l'occurrence, dans le domaine de l'environnement, il s'agira d'Alenvie, qui rédigeront une version préliminaire donc, de cette analyse du paysage donc, des infrastructures, et pour lesquelles donc, toutes les infrastructures, alors les IR, ce qu'on appelle infrastructures de recherche, et les très grandes infrastructures de recherche, les TGR, sont concernées donc, dans tous les champs disciplinaires. Puis donc, en janvier, les infrastructures qui seront retenues dans cette analyse du paysage recevront donc un lien pour remplir un formulaire, à partir duquel il y aura un second round, une seconde phase en fait d'interaction avec les groupes thématiques. Et puis ensuite, donc, une instruction par ce qu'on appelle le Haut Conseil des très grandes infrastructures de recherche et son comité directeur, donc, qui fixera le périmètre de cette nouvelle feuille de route. Ensuite, donc, une finalisation et un aller-retour avec le ministère à l'automne 2021 pour une publication de la feuille de route, donc quasiment dans plus d'un an, c'est-à-dire au premier trimestre 2022. Donc voilà, vous voyez un calendrier assez serré concernant le travail d'instruction et ensuite donc qui va s'étaler jusqu'à la publication de la feuille de route. Alors, pour compléter un petit peu ce calendrier et les événements qui vont nous attendre, je souhaiterais aussi compléter par le calendrier donc lié aux différents chantiers que le réseau des zones ateliers porte et sera amené à développer dans les semaines et les mois à venir, donc notamment évidemment aux actions au travers des actions transversales qui sont à l'heure actuelle en cours de route et qui fonctionnent depuis déjà un certain temps. Et on a vu un ensemble de résultats qui montraient finalement le travail accompli dans le cadre de ces actions transversales, mais aussi un certain nombre qu'il va falloir lancer, donc à la fois pour répondre à cet enjeu national de structuration du réseau, mais aussi pour répondre donc aux enjeux de recherche et aux enjeux internationaux dans lesquels on est impliqué. Alors, le premier chantier, évidemment, dans lequel vous travaillez déjà beaucoup, concerne le chantier sur la résilience, hein, qui est particulièrement crucial dans le cadre de la crise actuelle, mais pas que, hein, résilience vis-à-vis d'un certain nombre d'événements donc auxquels la société doit faire face. Un deuxième chantier, et on en reparlera tout à l'heure, Philippe en reparlera en ce qui concerne donc le projet LTER, concerne les questions de colocalisation de sites entre infrastructures. Donc là aussi, Oscar vient en premier dans l'esprit, mais d'autres aspects d'investigation doivent être menés avec les autres infrastructures du domaine et en gardant à l'esprit l'objectif de savoir quel intérêt pour ces localisations, pour répondre à quel type de questions de recherche et donc pour quelle stratégie. Un autre volant concerne la question de l'écotoxicologie qui est présente dans un certain nombre de zones ateliers, qui est largement donc développée ici ou là et pour lesquelles donc un certain nombre d'entre vous sont parties prenantes dans le cadre du réseau RECOTOX, dont le devenir reste à définir et là aussi le positionnement des zones ateliers par rapport à ce champ disciplinaire devra être étudié. Un autre type de chantier pour lesquels il y a un certain nombre d'interrogations, mais pour lesquels le réseau des zones ateliers a un positionnement tout à fait original, concerne la question des services, donc services en lien avec les acteurs du territoire et qui n'ont pas d'équivalent ailleurs et pour lesquels il y a effectivement des interactions très fortes et une participation active donc à l'aide à la décision. Et là aussi, ces notions de service devront être travaillées pour les rendre plus pédagogiques finalement et bien montrer en quoi elles sont importantes dans les activités du réseau et de l'infrastructure. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les agendas de programmation et de stratégie scientifique, à la fois au niveau national et européen, donnent la place à une programmation dans laquelle le réseau des zones ateliers a vraiment une place de choix dans les thématiques prioritaires sur les questions de résilience, sur les questions de santé environnementale, sur les questions d'aide à la décision. Et donc là, clairement, je pense que le réseau a toute sa part pour développer un certain nombre de veilles et entamer des réflexions prospectives pour pouvoir répondre de façon collective ou individuelle à ce type d'appel à projet. Voilà, donc sans monopoliser la parole, et pour finir, je souhaiterais vraiment remercier tous les collègues qui ont œuvré aujourd'hui pour que ce colloque puisse se tenir dans des conditions particulièrement difficiles, la fréquentation à la fois des sessions plénières et des sessions parallèles a montré que les collègues étaient là au rendez-vous. Donc vraiment un grand merci aux collègues de la zone atelier Loire, un grand merci à la direction des zones ateliers aussi, qui a réalisé depuis plusieurs années des chantiers d'envergure dans lesquels chacun a pu trouver sa place et qu'il va falloir renforcer dans les années à venir. Donc, merci à chacun d'entre vous, merci à la direction, merci à Vincent d'avoir réalisé ce travail et initié l'ensemble de ces chantiers, et merci à chacun. Alors, même si on ne peut pas souffler physiquement les bougies puisqu'on est tous en virtuel, je souhaite quand même un excellent anniversaire au réseau et longue vie surtout à chacun d'entre vous et à l'entreprise collective. Voilà, donc je vais laisser Philippe dire quelques mots concernant le volant européen et puis, si vous le souhaitez, on pourra répondre aux questions que vous pouvez vous poser.
Merci Dominique, vous m'entendez bien?
Oui, très bien.
Oui, donc effectivement, j'ai apporté quelques compléments concernant le projet ELTER. Je le fais en tant que chargé de mission inter-institut, hein, INE et INSU, et donc au titre du coordinateur national ELTER France. Bon, je vais être très très bref, j'ai trois principaux messages ici à vous apporter. Le premier, c'est en revenant un petit peu sur ce que disait Dominique sur la dimension clé de la coopération nationale et internationale, bien considérer que la participation du RZA à ELTER, c'est à la fois une chance et une opportunité. D'abord à l'échelle nationale, parce que ça nous offre effectivement un cadre pour renforcer nos complémentarités avec Oscar notamment, parce que ça nous amène à réfléchir aussi aux articulations avec des sites, ICOS, des sites ANAE, parce que le travail qui est attendu sur les services que fournira l'infrastructure ELTER, ça nous conduit aussi à un travail au niveau national, un travail plus étroit avec les pôles de données. À l'échelle européenne, il est évident, et bon, on ne peut être que conforté à entendre les présentations de ces derniers jours, il est évident que le RZA est très bien positionné pour apporter une contribution hein, vraiment majeure à cette étude, on va dire, intégrée des systèmes couplés nature-société. Cette étude intégrée au LIS, c'est vraiment l'ambition principale du projet ELTER. C'est sa spécificité par comparaison à d'autres infrastructures de recherche européennes qui sont inscrites sur la feuille de route de l'ESFRI. Voilà. Le deuxième message, c'est que le projet européen ELTER est aujourd'hui dans une phase d'implémentation. C'est-à-dire que les jeux sont ouverts. C'est un projet qui est porté par deux projets européens qui ont débuté en février, qui s'étale sur une durée de 5 ans. Le CNRS est le bénéficiaire de ces projets pour la France, donc il pilote la participation de la France à ELTER, et la contribution française à cette science ELTER et à la construction de l'infrastructure, elle est apportée par l'ensemble des deux communautés RZA et OSCAR. D'accord ? Alors, la communauté RZA, elle est impliquée à 3 niveaux. Dans ces projets. D'abord, par sa direction. La direction du RZA, elle participe à toutes les instances ELTER France, c'est-à-dire le comité de pilotage qui réunit les tutelles, hein, donc la direction du RZA est invitée, les bureaux, les core teams, les réunions tripartites Oscar RZA ELTER France. Tout cela, ça fait en moyenne à peu près 2 à 3 réunions par mois depuis janvier 2020. D'accord ? Le deuxième niveau d'implication, c'est les chercheurs, les anciens chercheurs qui sont dans les différents work packages et tâches des projets. Donc notamment, je pense à Marie-Noël Ponce, je pense à Christophe Pispard, etc. Et troisième niveau d'implication, c'est nos responsables de sites et de plateformes, et notamment ceux qui participent d'ores et déjà aux actions du projet Plus. Hein, c'est la zone atelier Plaine et Val-de-Sèvre et la zone atelier Alpes. Alors, cette participation, elle est cruciale, elle doit être renforcée, mais elle est cruciale parce que, encore une fois, les jeux sont ouverts et ELTER sera ce que nous décidons d'en faire, hein, avec nos homologues européens, bien entendu. La stratégie d'ensemble, si vous voulez, elle est fixée, on ne revient pas là-dessus, mais après, les modalités de mise en œuvre, elles sont à définir. Alors, notamment, comment on va décliner les questions de recherche qui sont liées aux grands défis qui ont été mis en avant, comment on va configurer nos sites pour répondre à ces questions, quelles seront les variables essentielles que l'on va suivre sur ces différents sites, comment on va gérer les données, quels seront les services de l'infrastructure, quel type de formation on peut envisager pour les responsables de sites, pour les scientifiques, pour les doctorants, post-doctorants, etc. Le troisième message que je voulais vous délivrer, c'est que la communauté RZA dans son ensemble, et encore une fois, c'est très très clair quand on entend ces présentations, elle doit, à mon sens, peser significativement sur les choix et les orientations du projet ELTER. Ces orientations vont être définies dans les prochaines années. Les objectifs du RZA, ils sont parfaitement en phase avec ceux du projet ELTER. Et comme l'a souligné Dominique, je pense qu'il faut vraiment le rappeler, les ZA sont relativement uniques dans le paysage des quelques 400, 500 sites ELTER qui sont actuellement référencés en Europe, hein, dans une trentaine de pays. Alors, elles sont uniques par leur contribution très originale à la science des socio-écosystèmes, c'est la première chose. Uniques par le fait que leurs recherches sont vraiment ancrées dans les enjeux des territoires, et uniques par le fait qu'elles nouent des relations très privilégiées avec toutes sortes d'acteurs socio-économiques. Donc, je dirais que l'implication de cette communauté RZA dans ELTER ne dépend en réalité que de notre volonté, de notre enthousiasme peut-être, à construire cette infrastructure de recherche européenne. Et en aucun cas, elle ne sera freinée par la coordination du projet. Cette coordination du projet, elle n'a de cesse depuis que moi je m'occupe un peu plus de ça, c'est-à-dire janvier 2020, elle n'a de cesse d'inviter les scientifiques et les responsables de sites et de plateformes à rejoindre cette dynamique. Alors, tout ça doit se faire en coordination étroite avec, évidemment, la direction du RZA. Il faut veiller à ce que la direction soit un relais efficace de toutes ces informations sur le projet et puis cette direction puisse donner les impulsions nécessaires pour participer pleinement à ce projet. Bon. Rapidement, je pense qu'il y a trois chantiers qui sont devant nous. Le premier, c'est la configuration, on va dire, thématique et géographique de nos sites, de nos plateformes, hein, qui souhaitent rejoindre la dynamique ELTER. Et là, on peut se baser sur le retour d'expérience des quatre sites qui sont, enfin, deux en atelier, mais en réalité, quatre sites ELTER France qui sont impliqués dans le projet Plus. Le deuxième chantier, c'est notre participation aux travaux des différents WP, et en particulier, je pense à ceux qui sont consacrés à la définition des variables essentielles du socio-écosystème. Mais ça peut être aussi des prises d'initiative pour fédérer des sites à l'échelle européenne sur des thématiques qui nous sont chères. Donc, il y a plein d'exemples, on pourra en rediscuter si vous voulez. Et un troisième chantier, c'est celui, je dirais, de l'accompagnement des responsables de sites, des responsables de plateformes, notamment sur toutes les questions qui portent sur la gestion des données, sur des besoins de formation, sur les questions administratives et financières, le coût des plateformes, etc. Donc, je souhaite qu'on puisse avancer avec la nouvelle direction du RZA sur tous ces chantiers, en collaboration étroite avec Oscar, vous avez bien compris. Et voilà, je pense que, pour conclure, hein, si vous voulez, il vaut bien voir que le projet européen ELTER n'a évidemment pas vocation à devenir, on va dire, l'alpha et l'oméga du fonctionnement des zones ateliers. Hein, ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit par contre de voir cette implication dans ELTER comme plus-value, un facteur d'enrichissement, on va dire, d'activité d'une ZA, qui, parce que ça l'ancre dans une construction européenne au long cours, hein, on va parler de 5, 10, 15, même plus d'années, donc cet ancrage, on peut attendre un certain nombre d'effets bénéfiques, notamment en termes d'attractivité de nos sites, en termes de reconnaissance et de labellisation de nos sites, en termes de développement de partenariats scientifiques et de partage de compétences. Donc, j'espère qu'on aura le plaisir d'échanger sur ces questions. Et évidemment, comme Dominique, je souhaite une vie riche, heureuse et longue au RZA. Merci.
Merci beaucoup. Alors, ben, du coup, les derniers mots, peut-être de conclusion par rapport à ce colloque. Bon, d'abord, bien sûr, je voudrais remercier les collègues qui ont participé au comité d'organisation, sachant que voilà, il y a eu un renfort très apprécié de Marie-Noël, hein, qui n'a pas rejoint la zone Atelier Loire, mais qui virtuellement nous a énormément aidés. Et puis, pour rejoindre aussi ce que disait Philippe, c'est vrai qu'on voulait aussi remercier collectivement la direction du réseau qui propose justement d'organiser ce colloque tous les 2 ans. Donc c'est une échéance qui est importante. Je pense que c'était bien justement de maintenir ce rendez-vous, même si en termes d'échanges, naturellement, ça a été beaucoup plus limité que d'habitude, puisque justement c'est un moment où on peut se rencontrer. Entre chercheurs, enseignants-chercheurs, jeunes chercheurs des différentes zones ateliers. Et bien sûr, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce réseau. Donc, d'arriver justement à avoir plus de connaissances sur ce qui se passe sur les autres territoires, dans les autres zones ateliers. Donc, ces moments d'interconnaissance sont toujours très importants dans les réseaux. D'autant plus quand on n'est pas un réseau de proximité et qu'on ne peut pas justement avoir un suivi régulier ou des visites de terrain. L'autre élément qui est apparu plusieurs fois dans le fil des discussions, c'est d'identifier des thèmes qui pourront apporter une nouvelle transversalité au réseau. Donc ça peut être sur des méthodes, des outils, mais aussi un certain nombre d'éléments plus thématiques sur des questions émergentes.
À ce moment-là, moi, je souhaiterais, au nom de la zone Atelier-Loire et puis plus largement, remercier vivement Sylvie Servin, qui a œuvré, qui a relevé le défi il y a moins d'un an maintenant, puisque on lui a posé la question lors du dernier comité de direction en décembre 2019, et qui a relevé le défi et qui a porté finalement, avec le comité d'organisation et des forces vives de plusieurs zones ateliers, heureusement, et un comité scientifique qui regroupait l'ensemble des zones ateliers, ce colloque, et on en voit la conclusion, et c'est, je pense, un moment important, malgré le contexte, et une belle réussite, avec de très, très belles contributions de l'ensemble du réseau, qui démontre, je pense aussi, la capacité, du réseau à se saisir d'un certain nombre de problématiques scientifiques.
En tout cas, le prochain rendez-vous, il sera vraiment ensemble, aller visiter ensemble des terrains de recherche en rencontrant aussi les acteurs, puisque là, au final, ben, c'est vrai qu'on s'est retrouvés beaucoup entre chercheurs. Donc, c'est quand même ce qui nous a manqué aussi.